Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Il faut sauver la soirée ciné, le podcast où l'on parle des films d'hier et d'aujourd'hui et où se pose la question, peuvent-ils nous sauver notre soirée ciné? Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné de Ringside pour cette première émission. Bonjour Ringside, comment ça va?
Bonjour Isaac, bonjour tout le monde, ça va bien, il fait chaud, c'est l'été torride. Et on va parler ciné, donc c'est super cool. Ça fait un moment qu'on veut trouver une émission, un format pour parler ciné. On espère que celui-là sera le bon.
Ouais. On a trouvé quelque chose de complètement inédit et complètement original.
Oui. Le concept est assez incroyable quand même.
C'est incroyable. Sélectionner deux films et en parler.
Voilà.
Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du podcast. Vous assistez à une première.
On est des fricheurs. Hein, c'est avant-gardiste.
Alors, pour cette première émission, on va aborder deux films. Yannick de Quentin Dupieux, qui est sorti en salle le 2 août 2023, donc juste là. Et Police fédérale Los Angeles, sorti en 1985, réalisé par William Friedkin, qui lui nous a quittés ce 7 août 2023, et qui est un de nos réalisateurs chouchous, hein, William Friedkin.
Oui. Oui, on ne va pas se cacher, hein, effectivement. Là, c'est vraiment une de nos références, un de nos cinéastes qui a créé notre façon de voir le cinéma, qui est parti là. Donc, ce sera un petit peu notre émission hommage, du coup, pour démarrer. Ouais. Une première et une émission hommage.
On fait d'une pierre deux coups.
Ouais.
On commence avec Yannick, réalisé, écrit, monté, mis en lumière par Quentin Dupieux. Il fait tout. Avec Raphaël Quénard, Pio Marmaille, Blanche Gardin et Sébastien Chassagne. Et avec des extraits musicaux d'Emoy Gibrou. Alors, je pense que je massacre le nom de cette pianiste éthiopienne, qui aussi nous a quittés là, en 2023, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé moi les extraits proposés vraiment super.
Ouais,
de quoi parle ouais, je trouve que c'est une bonne découverte pour nous qui n'y connaissons rien en musique, il faut bien le dire.
Exactement.
À part Carlos,
oui. Bientôt un podcast sur l'intégrale de Carlos.
De Carlos, oui. Tiens, lis un pont sur le chihuahua. Yannick habite Melun. Il a mis 45 minutes en transport en commun et 15 minutes à pied pour voir une pièce de théâtre sur Paris. Le hic, c'est que celle-ci ne lui convient pas. Donc, il décide de prendre le taureau par les cornes en tenant en otage le public et les acteurs afin de réécrire la pièce à sa convenance. Donc ça, c'est le synopsis de Yannick de Quentin Dupieux. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé, Ringside
Bah, j'en ai pensé plutôt du bien, hein, quand même. Le visionnage est tout récent, hein, j'ai vu ça hier. C'est toujours en salle, hein, je pense que ça sera encore en salle au moment où on publiera le podcast. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer. Alors, je suis pas un spécialiste de Quentin Dupieux parce que c'est un réalisateur quand même très prolifique qui sort voir au moins un film ou deux par an. Ouais. Mais tout ce que j'ai vu de lui jusqu'ici, ça m'a plutôt plu. Et là, ça fait pas exception. C'est un film qui est court. On est presque sur un moyen métrage, donc on a vraiment pas le temps de s'ennuyer.
Ouais, une heure et quelques, ouais.
Ouais, une heure et quelques, ouais. Mais on va voir qu'on peut mettre quand même pas mal de choses en une heure. Il y a un casting qui est quand même impeccable. Moi, je suis assez bluffé par l'acteur principal, dont j'ai déjà oublié le nom.
Raphaël Quénard.
Raphaël Quénard, voilà. Que j'avais vu, parce que j'ai quand même vu le dernier. Fumer fait tousser, qui était aussi vachement bien. Et où il avait une scène où il crevait l'écran, hein, dans ce sketch là, dans son personnage là de chef d'équipe dans une série.
Ouais, plus vrai que nature.
Ouais, plus vrai que nature. Alors, ça, on en a croisé un paquet des comme ça. Je trouve que là encore une fois, son personnage va prendre plus d'ampleur, hein, puisque c'est quasiment le héros c'est le personnage central du film. Et il tient le truc de main de maître. Le reste du casting aussi, moi, Blanche Gardin, j'aime beaucoup. Elle était déjà assez extraordinaire dans Blanche, le dernier Bruno Dumont, qui est pas un film fantastique, mais qui a quand même ses qualités.
Ouais, c'était France, c'est ça.
France,
ouais.
Je dis quoi, Blanche.
Ouais, ouais. Blanche, ouais,
non, c'est
ouais.
France. Ouais.
Ouais, moi aussi, j'avais trouvé excellente là. En... Directrice de com, là.
Directrice de com, plus vraie que nature. elle est douée pour jouer les personnages un petit peu quand même détestables. mais dans Fumer fait tousser, on voyait qu'elle pouvait quand même jouer aussi sur un registre un peu plus subtil. Là, c'est un peu pareil. Pio Marmaille, je j'aime beaucoup aussi, finalement. Donc voilà, le casting est vraiment très solide. Et puis, c'est encore une fois, c'est très bien écrit. Il y a cette confrontation du coup entre le personnage de Yannick et le reste de la troupe de théâtre qui est quand même assez savoureux. On tente d'un côté puis de l'autre, on sait pas trop bien où se positionner dans cette prise d'otage grand guignolesque, on va dire, parce que c'est on est dans le registre du théâtre de boulevard quand même. On va tenir le truc un petit peu jusqu'au bout. Et voilà, c'est suffisamment rythmé. Il y a ce talent de quand même de Dupieux. C'est ce qu'on trouve quand même chez les bons réalisateurs, c'est-à-dire qu'il évite de nous montrer les trucs qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Et ça, je trouve, c'est bien parce qu'il respecte. Enfin, tu sens respecté en tant que spectateur. On respecte un petit peu ton intelligence en t'expliquant pas tout. Il y a des zones où il va. Enfin voilà, qui vont rester mystérieuses dans l'histoire.
Ouais, il y a des zones d'ombre et d'ambiguïté un peu sur les.
Ouais.
Sur,
Puis voilà, on va pas tout savoir de Yannick. On va pas avoir, par exemple, une séquence de flashback où on le voit chez lui avec sa mère. Tu vois.
Tu veux dire comme dans Joker de Todd Phillips.
Exactement. Oui. Bah voilà, hein, on va pas. Oui. Non, mais clairement, tu vois, il y a vraiment. On comprend les choses. On n'a pas besoin qu'on nous explique tout et qu'on nous le montre. Et ça fait du bien quand même de se faire un petit peu respecter en tant que spectateur. On aime bien, nous, quand c'est... On nous raconte les choses sans nous les raconter, en fait. Quand on laisse la réflexion un petit peu agir du spectateur, même si tout va très vite, hein, quand même, dans le film, c'est très, très rythmé. J'aime bien aussi le propos du film et la vision de ce personnage de Yannick qui est spectateur, critique, voilà, qui est pas satisfait de ce qu'on lui demande et du coup qui se permet tous les excès et toute la violence simplement parce que le spectacle qu'on lui propose lui plaît pas. Ça, clairement, j'ai l'impression que c'est une métaphore sur la critique Twitter, quoi, les communautés en ligne qui vont se décharger sur un film de manière excessive. Enfin voilà, quand ça va beaucoup trop loin dans les propos, alors que c'est qu'un film au final.
Oui. Ouais. Et qui pense pouvoir faire mieux que.
Et qui pense pouvoir faire mieux. Ouais, il fait vraiment le tour du sujet. Sans que ce soit clairement expliqué, parce que bon, ça reste qu'une interprétation de ma part, et d'après ce que j'ai eu des interviews de Quentin Dupieux, il aime pas trop qu'on surinterprète son travail, enfin du moins il voit pas trop l'intérêt, mais bon, je pense qu'il y a quand même un truc qui revient chez lui assez souvent, c'est-à-dire sur la création artistique. Qu'est-ce que c'est de créer, qu'est-ce que c'est l'imaginaire, qu'est-ce que c'est les choses comme ça, et aussi une espèce de sensibilité au niveau des gens qui... Enfin, les vrais gens, on va dire, entre guillemets, je sais pas comment tu traduis mais là, un petit peu cette lutte de classe que tu as entre les gens qui... Et qu'est-ce que la normalité aussi ? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'être normal dans la société ? Est-ce que c'est se plier à toutes les injonctions, entre guillemets, que la société nous impose, hein, ou est-ce que c'est autre chose, quoi ?
Ouais, parce que ce que je trouve intéressant justement dans Yannick, c'est que le point de bascule, en fait, entre donc Yannick intervient pendant une représentation de théâtre de boulevard, une pièce qui est vraiment pas terrible. Hein. On comprend que c'est pas un succès parce que la salle est à moitié vide. Nous on voit un extrait et on voit que c'est que du cliché, quoi.
Extrait quand même très long, hein. Le début du film, on a quand même tout le début de la pièce.
On sait même pas si c'est le début, si on est quel moment on en est dans la pièce. On imagine qu'on est un peu au début. Et effectivement, c'est pas terrible en fait ce qui est proposé. Oui. Et l'intervention de Yannick, en fait, elle rebat les cartes en fait de effectivement dans ce jeu entre auteur, acteur et public, qui a l'ascendant en fait. C'est ce qu'il dit à un moment donné, c'est que il prend en otage. Les acteurs pour afin de réécrire la pièce, mais lui il s'en pris en otage en fait quand il est devant une pièce, puisqu'il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de s'exprimer, donc en fait il a juste le droit de se taire et de d'écouter pendant voilà le temps que dure la pièce ou le temps que dure le film, pour prendre un autre exemple. Et et voilà, en fait il rebat les cartes et il décide de devenir auteur de la pièce, et pour montrer en fait que n'importe qui peut être artiste, c'est ce qu'il dit à un moment donné.
Si on a du temps libre.
Et voilà, et si on a du temps libre. Et ce qui est vraiment bien, je trouve, dans le film, c'est que tu te positionnes toi jamais. En fait, tu sais jamais quelle est la position. Enfin, on t'impose jamais une position. C'est-à-dire une position morale par rapport à ce que tu vois. C'est-à-dire que tu peux trouver qu'il a raison, effectivement, que la pièce est à chier. Tu peux trouver que son acte est disproportionné, mais tu peux trouver aussi que c'est rigolo la façon dont il remet en place un peu les trois acteurs, notamment l'acteur principal qui est joué par Pio Marmaille. Et puis, il n'est pas bien traité, effectivement. C'est traité sur le fond, le début, en fait, la façon dont les acteurs réagissent par rapport à Yannick. C'est vraiment de le prendre pour un cassos et de se foutre de sa gueule en fait une fois qu'il est parti de la salle. Ouais. Et c'est parce qu'il entend les gens rire dans la salle et il pense que les gens rient. C'est là aussi, il y a aussi une couche d'ambiguïté qui se superpose, c'est-à-dire qu'il pense que les gens rient au spectacle alors que le spectacle il l'a trouvé nul. Sauf que les gens sont en train de rire et d'applaudir beaucoup plus qu'à la pièce. Mais il rit en fait de Pio Marmaille et de Blanche Gardin qui imitent Yannick. Et l'intervention de Yannick pendant
pendant son clairement, l'intervention de Yannick dans la pièce est plus marrante que la pièce en elle-même.
Voilà. Ouais, parce qu'il y a un côté one-man show aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va faire son speech, il va commencer à expliquer pourquoi est-ce que la pièce est nulle, pourquoi est-ce que lui, il peut faire mieux. Il va commencer à écrire il y a une longue scène. Moi, j'aime bien parce que c'est un gag complètement pourri, mais est tiré sur vraiment de très longues minutes où on le voit taper avec un doigt sur le PC là qu'il a récupéré pour taper la pièce, sauf qu'il tape à un doigt. Donc c'est super long, mais il y a une musique sinistre.
Qui se superpose à ça. C'est un gros jeu sur la musique qui est.
Ouais, voilà, sur un décalage en fait entre une musique qui est super lourde, des effets sonores en fait que tu as dans des films dramatiques un peu naze, et cette l'image de ce type qui est en train de taper avec un doigt sur le traitement de texte, parce que de l'autre main en fait il tient son arme à feu.
C'est très pratique.
Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un plan en plongée, et tu vois en fait tout le décor de la pièce de théâtre, et tu vois que tout le décor est pourri. Vas-y.
Tout au long de la prise d'otage, il va un petit peu casser le mythe du théâtre, quoi. Plus ça va avancer, plus on va voir que le théâtre est miteux, que les acteurs sont frustrés, blasés. Quand ils vont chercher l'imprimante, c'est une imprimante hors d'état, qui est.
Il y a un côté
qu'en fait,
décalé et suranné.
Et puis il est donc du coup tu sens qu'il les considère comme les stars au-dessus du bas peuple, alors qu'en fait c'est des gens qui sont quasiment au même niveau que lui, parce que c'est tous des acteurs à peu près ratés. Il y a Blanche Gardin qui explique qu'elle elle fait aussi des trucs à côté, elle n'est pas que actrice. Donc du coup, ça rééquilibre les choses assez rapidement dans le film, ce qui permet d'éviter le truc un petit peu manichéen entre les gens de la haute détestable et puis le bas peuple, quoi.
D'autant que même sur le côté de l'intelligence de Yannick, en fait, t'es un peu déstabilisé parce que il reprend des mots. Donc il parle avec un vocabulaire très commun, mais d'un autre côté, quand on lui sort des mots, par exemple subjectifs ou qui sont pas hyper compliqués, mais où tu pourrais dire que dans une mauvaise comédie Le personnage ne saurait pas ce qu'est subjectif. Là, il connaît le mot subjectif, mais en fait, il se fout de la gueule en fait de l'acteur qu'il emploie, et en disant ouais, mais en fait, c'est le goût de la pièce est subjectif, mais je peux te renvoyer l'argument parce que si je trouve la pièce mauvaise, c'est aussi mon goût, c'est subjectif. Donc en fait, voilà, c'est comme en gros, et c'est un peu là-dessus que part en fait la discussion, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est l'art et qu'est-ce que c'est en fait, comment dire, qu'est-ce que c'est un bon. Une bonne pièce de théâtre, un bon film, un bon... qui peut dire en fait quel est le bon goût, en gros. Ouais. Et en fait, le bon goût, plus ou moins, c'est celui qui a le flingue qui l'impose.
Ouais. c'est ça. Oui, parce qu'il n'est pas complètement con, en fait, le mec. Hein. Il est, il a quand même une intelligence logique. Il manque de culture, quoi. C'est le, on va dire que c'est ça le souci. Et mais effectivement, du coup, il a du répondant face aux acteurs qui sont quand même.
Il a plus de répondants que ce que tu pourrais comment dire envisager au début de la pièce en fait. D'autant qu'il a ils expliquent qu'il a un job de gardien de nuit et que il y a tout le comment dire. Il y a tout le décalage aussi avec les autres spectateurs, parce qu'il commence à parler avec les spectateurs. Donc ça aussi, ça fait très one-man show, où en fait, il demande aux spectateurs ce qu'ils font là. Ça fait un peu comique de cabaret, qui vient parler avec le public, et en fait, qui reprend généralement les infos que le public lui donne pour les remettre dans la tronche du ou se moquer d'eux, carrément, parce que il y a vraiment des... Il est à la fois dans la vanne sympa et dans la vanne méchante, quoi. Il est aussi à se foutre de la gueule du physique, à humilier aussi. Parce qu'il humilie un des spectateurs de la même manière que lui s'est fait humilier. C'est-à-dire quand le spectateur qui lui prête son PC, en fait, il s'aperçoit que le fond d'écran, c'est une meuf à poil. Il le montre à toute la salle et puis il va l'afficher. Le cataloguer. Donc t'as tout ce jeu là et effectivement c'est un huis clos. On sort quasiment pas, excepté à un moment précis du théâtre. On sort à un moment donné, c'est pour nous montrer aussi l'affiche de la pièce qui est collector.
Le cocu, ça s'appelle.
Le cocu, la pièce de théâtre.
Mais ça, c'est pas mal parce que ça montre aussi qu'ils sont dans une bulle. Quand t'es au théâtre, t'es dans une bulle par rapport au reste du monde et que la réalité est loin quand même. Donc c'est les règles de la société, de la réalité, elles s'arrêtent un petit peu quand tu passes la porte du théâtre, hein, quelque part.
Et puis, mine de rien, il te met le principe, déjà, du film est un principe qui te met mal à l'aise dès le départ, puisque tu as une prise d'otage. Quand tu le vois en salle, ça fait quand même... C'est pour ça que c'est intéressant de le voir aussi en salle, parce que ça renvoie aussi à des événements dramatiques. Ça te met direct sur un tu sais pas sur quel pied danser en fait dès le départ, puisque le l'acte en fait de prise d'otage avec l'arme à feu ça transgresse un tabou aussi dans notre société. Après, ce qui s'est passé sur le fait que en fait l'art devient un enjeu dans une guerre guerre qui peut être vue soit comme une lutte des classes, soit une lutte revancharde, soit un défoulement d'une partie de la société qui finit sur la touche, quoi, qui finit marginale. Et c'est jamais du point de vue, c'est jamais montré, c'est pas montré d'un point de vue positif. Par contre, c'est jamais non plus accabler complètement la situation. C'est-à-dire que le fait d'en faire une comédie, ça tu vois la réaction des spectateurs est intéressante parce que les spectateurs restent plutôt sobres et il n'y a pas de crise d'hystérie.
Ils réservent ça pour le passage où Pio Marmaille récupère le flingue et devient lui-même le mec qui prend la prise d'otage parce qu'en fait il pète un câble, hein, il a passé un level comme il dit et c'est lui qui tient en joue Yannick et qui va l'humilier
Ouais, parce
et
que lui,
en,
il
en même temps, en crachant ses 14 vérités, quoi.
Parce que lui, il voulait être Depardieu, il voulait être de Vert.
Ouais. Il aime le cinéma, pas le théâtre.
Il aime le cinéma, pas le théâtre.
Et justement, juste après cette scène-là, il y a Yannick qui finit par respecter le personnage de Pio Marmaille.
Ouais.
Qu'est-ce qui nous rassemble, en fait, plus que nos passions dans le monde actuel, via les réseaux sociaux, c'est notre haine, en fait.
Ouais.
Notre haine, notre énervement, notre dégoût. Et voilà, quelqu'un qui va cracher sa haine devant toi, généralement, tu vas plus le prendre en sympathie, surtout sur les réseaux sociaux, que quelqu'un qui va venir te raconter ce qu'il aime bien. Je crois que c'est un des problèmes des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment ça se soigne, mais c'est un truc moi qui me dérange.
on y étant pas.
Oui, voilà, en fait, il faut boycotter, hein, tout simplement.
Moi, je ne suis pas sur Twitter, du coup, ça...
Oui. Okay. Non, mais je pense que ça s'applique à tout, hein. Que ce soit Twitter, que ce soit Insta.
Mais c'est vrai que quand t'as certains spectateurs qui commencent à défendre la pièce, Yannick, il se fout de leur gueule. En fait, il veut pas entendre
les arguments de défense. Ouais.
Ah bon, les arguments sont tout aussi pétés que les siens, parce que c'est de l'ordre du j'aime pas, donc en fait.
Et puis aussi, les acteurs sont pas mauvais parce qu'ils sont devant. parce qu'ils sont là, quoi. Mais il y en a une qui dit nous on n'a pas de point de vue critique, en fait. On est pas venu.
Ce qui est intéressant aussi,
parce que ça existe aussi, des gens qui viennent juste pour regarder, ils sortent, ils ont passé un moment, ils ont pas analysé plus que ça. Mmh. Et c'est aussi le but, je pense, du théâtre de boulevard, c'est de faire passer un moment, mais effectivement...
Et c'est ce que tu disais par rapport aux interviews de Dupieux, sur le fait qu'il n'aime pas qu'on surinterprète ses films. J'avais entendu, moi aussi, sur une interview où il expliquait pourquoi est-ce qu'il faisait des films aussi courts, en disant qu'il ne voulait pas en fait, faire perdre le temps des spectateurs, quoi. Il trouvait qu'en faire plus long, c'était prétentieux, en gros.
D'imposer
3 heures de film plutôt que ce qui fait des films d'une heure 10, 1h15. Il y est quand même dans l'histoire du cinéma qui était à un moment donné un peu plus la norme. Hein, quand il y avait une période où une longue durée était quand même réservée à des films vraiment de haut standing avec des très gros budgets, mais tu trouvais beaucoup plus de petites séries B, de choses comme ça, en 1h10, 70 minutes. Ne serait-ce que pour faire un double programme. C'est vrai qu'il revient quand même à quelque chose. C'est pas... En fait, lui, en faisant ça, en faisant des petites comédies de 70 minutes, ce qui apparaît comme comme une espèce de posture en fait, un peu dandy aujourd'hui, en fait, il fait que revenir à des choses classiques, ce que je trouve aussi intéressant, en fait. Moi, j'avais vu l'an dernier Incroyable mais vrai, que je trouve, moi, une très bonne, en fait, comédie classique, avec un point de départ qui est fantastique, en fait, sur un couple, en fait, qui achète une maison dans laquelle il y a un trou. Et en fait, ce trou, quand on passe dedans dans le tunnel...
Spoil pas, j'ai pas vu.
Tu l'as pas vu.
Non.
Du coup, il se passe quelque chose en fait de fantastique. Et en fait, tout le film après déroule sur cette idée-là.
Mm.
Et en fait, ça, je trouvais qu'il y avait une belle réflexion en fait sur au final en fait ce que font les vraies comédies, c'est-à-dire que en gros, tu ris, mais tu ris de quelque chose qui est universel en fait. D'une aspiration qui est universelle. Et le fait d'en faire vraiment 1h10, ben voilà, tu t'apesantis pas et tu as dit ce que tu as à dire. Et ça revenait à quelque chose en fait de très, je trouve, de très consignant envers le spectateur.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, il fait une démarche de. Je pense qu'il y a beaucoup de lui dans Yannick, mine de rien, dans la démarche en fait de. D'essayer de casser en fait le mur entre les gens qui sont sur l'estrade, qui sont sur la scène, et les gens dans le public. Et en fait, de tendre la main d'un côté pour qu'il y ait en fait une espèce effectivement, de moment qui finit par être un moment sympathique, parce que en gros, c'est ce que veut aussi Yannick. Il veut pas imposer son point de vue, mais lui, son but, c'est de dire avec ma pièce, on passera un meilleur moment et on sortira avec le sourire.
Ouais. C'est parce que c'est ce qu'on recherche quand on va voir un film populaire, sans forcément que ce soit qu'on soit dans la facilité vraiment extrême, la médiocrité, comme ça arrive souvent dans les comédies un peu commerciales.
Qui est un peu le point de départ, en fait, la médiocrité de la pièce de boulevard devant laquelle il est, quoi.
Ouais.
Qui est une pièce où tu sens que ça a été fait à en pilote, pilote automatique, et même les acteurs avouent à un moment donné que...
c'est le pari, je pense que c'est le pari de son cinéma, de faire un truc populaire qui soit quand même, comment dire, d'un certain niveau artistique. Et sans jamais jouer dans la facilité. Et ça passe aussi par le fait effectivement de pas rallonger la sauce ou de tirer sur la corde sur des sujets où c'est souvent des pitchs très forts, et ça arrive souvent dans les comédies que t'aies des pitchs très forts pour lancer le film, des concepts vraiment, quand tu vois la bande annonce tu dis ah ouais, ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment original. Et puis quand tu vois le film, au bout d'une demi-heure ils ont fait le tour du sujet. Et généralement, derrière, on est dans les trucs classiques. Il n'y a plus un seul gag, il n'y a plus rien. Ouais. puis voilà, on s'emmerde jusqu'à la fin. Là, c'est faire preuve quand même d'une certaine intelligence, je pense, artistique, que de savoir quand s'arrêter et pas trop tirer sur la corde. Bon, c'est une image un peu éculée, mais je pense que c'est vraiment ce qui, pour avoir vu pas mal de comédies de merde, entre guillemets. À la con comme ça, effectivement, souvent ça démarre super bien, tu dis ah c'est bien, on va se marrer, puis au bout d'une demi-heure t'as envie de tuer tous les acteurs et tu dis
non, mais c'est surtout Michael Youn, ouais, où ils ressortent. Moi je trouve aussi dans les comédies habituelles, on te ressort plutôt les mouchoirs vers la les deux tiers.
Ouais. Ouais,
à
voilà.
À un moment donné, il y a un instant dramatique qui fait on peut pas que rire. Il faut aussi.
On voit pas sa rupture avec sa femme. On voit pas. Les trucs. On voit. Ça se termine sur. On spoil beaucoup.
C'est
la création. Il est épanoui par la création artistique, en fait.
Ouais, voilà. On spoil à partir de. On va prévenir, on spoil à partir de maintenant.
Voilà.
Je tousse un peu pour avertir, mais on spoil à partir de maintenant. Ouais, donc tu disais sur le final.
Le final, on le voit qu'il est complètement épanoui, quand il voit sa création devant le public, et qui est quand même un truc de merde, hein, ce qu'il écrit. Mais ça fait marrer parce que il y a des fautes de français, c'est mal écrit, les acteurs savent pas comment le jouer. C'est ça aussi le théâtre. Peut-être c'est des choses qui sont intéressantes dans le spectacle vivant, on va dire.
Ouais.
C'est quand ça joue avec le public comme ça, et que t'es spectateur de la création du truc.
Le public réagit très bien. Le public réagit très bien à sa pièce, mais parce que tu sens que ils sont soulagés, en fait, de ne pas s'être pris une balle de.
Il y a ça flingue, aussi. Ouais.
C'est tout. C'est qu'ils sentent que ça va être la fin, qu'ils vont pouvoir regarder la pièce et puis pouvoir sortir. Mm. Et voilà. Sauf que quelqu'un est déjà sorti.
Le bourgeois.
Le bourgeois, ouais. Qui n'a pas totalement tort. Hein.
Qui n'a pas totalement tort non plus. Hein. Qui est peut-être le mec le plus sensé du truc. Mais...
Le plus sensé. Moi, j'aime bien la réponse quand justement Yannick le menace en disant « t'imposes rien, c'est moi qui t'impose. Ça, c'est les clés de ton appart, de ta maison de campagne. » Et puis, qui lui répond « mais pourquoi vous me posez des questions alors? Si vous pouvez tout imposer, vous ne demandez pas mon avis, vous vous contentez de donner des ordres. » Et en fait, il le mouche. C'est le seul, d'ailleurs, de tous les spectateurs qui arrive à le moucher. Et c'est le seul spectateur qui, il y a deux spectateurs qui partent de la salle. Il y en a un qui se faufile vers la fin. Et il y a lui qui part, mais vraiment en grande pompe. C'est-à-dire qu'en disant qu'ils sont tous débiles.
Je dis peut-être une bêtise. Hein. C'est peut-être Claude qui a appelé la police.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais là encore, il y a une ambiguïté. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que du coup, la brigade antiterroriste intervient. C'est le en plus, moi, je trouve le plan vachement bien fait de fin.
Ouais.
Ce qu'on a vu, en fait, en début, puis en pastille, comme ça, tout au long du film, on a vu les couloirs vides du théâtre. Dans la séquence de fin, on voit de nouveau le couloir vide. Il est suffisamment de temps pour qu'on
Moi, je pensais que les gens allaient sortir. En fait,
ouais,
quand on commence à entendre du bruit, je pensais que c'est les gens qui allaient sortir de la truc.
Ouais. Et d'un coup, en fait, c'est pas les gens qui sortent, c'est les flics qui arrivent. Ouais, vraiment l'unité de la BRI.
Voilà.
Ouais. Et qui arrivent et qui envahissent en fait tout l'écran. Et le film coupe. Le plan reste fixe et on voit donc les policiers arriver et compter à rebours. Il compte jusqu'à 3, ce qui est aussi en miroir avec les 3 coups de la pièce de théâtre, et qui font qu'ils entrent dans la salle de théâtre, et en fait, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un écran noir, et il laisse l'écran noir durer assez longtemps. L'appareil te laisse, en fait, à toi la possibilité d'imaginer ce qui s'est passé dans cette salle, ce qui est intéressant, quoi.
Ce qui est une bonne manière de terminer le film, en fait, hein, peut-être la meilleure.
Ça te remet un peu en question tout ce que tu as vu, tout ce que tu en as pensé, comment tu as jugé un peu tous ces gens aussi, parce que, en fait, fatalement, tu en viens toujours à juger. Effectivement, on dit le vieux, c'est un bourgeois, mais en fait, on le sait pas, quoi. On n'a pas plus de d'infos sur ce type-là que...
Ça, c'est bien qu'il n'y ait vraiment aucun flashback ou truc comme ça sur qui sont les personnages. On sait juste ce que les personnages nous disent d'eux. Sinon, on n'en sait pas plus, quoi.
Et puis on ne sait même pas si...
Ouais, parce que c'est des mythos.
Ils racontent vraiment... ou s'ils sont pris par la prise d'otage, parce que tu as... J'aime bien, moi, les deux nanas qui... deux copines qui viennent voir la pièce et en fait il demande s'il peut dormir chez l'une d'elles et en fait elle se renvoie les deux la balle en essayant qu'il aille chez l'autre. Ah ouais, mais moi mon appart il est plus petit ouais, mais chez moi il y a un chat, enfin c'est bien foutu. Du coup je te pose la question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Yannick, peut-il sauver notre soirée ciné?
Ah oui, absolument. En plus, c'est court, donc on peut faire vraiment une soirée de grands films.
Ouais.
Non, c'est chaudement recommandé. Il y a effectivement gros casting, scénario bien rythmé, des tonnes de thèmes qui sont abordés, performance d'acteur, une écriture très très bien ciselée. Non, c'était un bon investissement.
Ouais. Tourné en 6 jours.
Ouais. Ouais. Un film mystère, apparemment, qu'il avait trouvé dans le plus grand secret pour l'offrir aux fans.
Ouais.
Comme ça.
Ouais, parce qu'il était parti.
Le film est fait tousser, il est sorti il y a 3 mois.
À peu près. Ouais. Et il était prévu. Il avait prévu de faire un autre film, et en fait, il a intercalé celui-ci. Voilà, le tournage. On va passer au deuxième film. On verra, on se demandera s'il y a des points communs entre les deux films. qui date de... Déjà, il y a un flingue. La place du flingue est intéressante dans les deux. C'est Police fédérale Los Angeles, donc sorti en 1985, réalisé par William Friedkin, écrit par Gerald Petevich, basé d'ailleurs sur son livre To Live and Die in LA, et aussi coécrit donc par William Friedkin. Direction photo Robbie Muller, avec Robert Yeoman qui s'est occupé de la seconde équipe et notamment de toute la partie cascade et notamment la poursuite en automobile qui est devenue un classique. Montage de Bud Smith, musique de Wong Chung, un groupe anglais de l'époque. Avec William Petersen, John Panko, Willem Dafoe, Darlan Flugel, Debra Feuer, Steve James, John Turturro, Dean Stockwell, Robert Downey Senior. Grosse distribution. De quoi parle Police fédérale Los Angeles pour ceux qui ne l'ont pas vu? Richard Chance et John Vukovich sont deux agents des services secrets américains. Ils cherchent à faire tomber un faux monnayeur appelé Rick Masters. après que Jim Hart, le partenaire de Chance, a été assassiné par ce même Masters. Donc on est dans une intrigue vraiment ultra classique, voire en fait complètement cliché de poursuite et de vengeance, en fait.
Ouais.
Voilà, deux flics qui veulent venger un de leurs collègues assassiné en plus à 2 mois de la retraite.
Voilà, ça rappelle une certaine arme fatale.
Ouais, et qui est complètement du coup transcendé par le style de William Friedkin. Je vais te demander ce que t'en penses, Ringside, mais c'est un de nos films, je pense, de nos films choc de notre jeunesse. Je pense que t'aimes plutôt bien. C'est plutôt
ouais,
sympa.
Ouais, c'est bien, mais c'est un peu vintage, tu vois. Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, c'est pas. Effectivement, les effets spéciaux ne sont pas des grosses puissances numériques de maintenant, mais il y a un certain humour qui est là et qui... Non, je pense que c'est un chef-d'œuvre intemporel, quoi. Et, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. Donc, du coup, je l'ai rematé pour l'occasion. Et des fois, on se fait des frayeurs. On se dit, est-ce que du coup, je vais moins l'apprécier qu'à l'époque ? Est-ce que... Bon, bah, là, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Le truc n'a pas vieilli. C'est... on découvre encore des nouveaux trucs. C'est ce genre d'œuvre qui transcende le temps et puis qui, comme je dis, à chaque vision, un point de vue différent. J'ai encore. Et puis ça file à une vitesse assez incroyable. Comme tu dis, il y a toujours la pièce maîtresse de la course poursuite au milieu qui est un morceau de bravoure, mais faut dire pas que ça, hein, tout est la réalisation est quand même au top, l'acting est au top. Par quoi commencer déjà? La zik
de Wong Chung.
Wong Chung
qui a été en fait composé avant le film, en fait pendant le tournage. William Friedkin a monté le film en fonction des chansons que lui ont fournies les membres du groupe Wong Chung, qui avait été contacté par Friedkin, comme il avait contacté Tangerine Dream sur Sorcerer, sur le Covoin de la Peur. On va peut-être parler un peu déjà de William Friedkin, donc qui nous a quittés. Puisque c'est un peu le retour gagnant dans les années 80, sa Police Fédérale Los Angeles, puisque le précédent film, c'est une merde, je l'ai revu. J'en avais plutôt un bon souvenir, mais en fait, c'est quand même du rail. C'était Deal of the Century, le coup du siècle, qui est une comédie sur des vendeurs d'armes, avec Chevy Chase. Ça se laisse voir encore, c'est Ted Vitcher, coffre plein.
D'accord.
C'est The Brink's Job. Qu'il a fait justement après Sorcereur.
J'ai pas vu toute la filmo de Friedkin, il me manque un peu les films du début, et notamment celui dont tu parles là. Donc...
Et William Friedkin, du coup, né en 35, qui commence à la télévision. Donc lui, il vient d'une famille d'immigrés juifs qui ont fui la Russie du tsar Nicolas II. Au début du XXe siècle, ils vivent vraiment dans la pauvreté. Il n'est pas issu d'une classe très aisée. Et au début des années 50, après le lycée, il n'a rien foutu de tout le lycée. Et il doit trouver un boulot. Et il trouve un boulot au courrier en fait, d'une chaîne de télévision. C'est le début des chaînes de télévision. C'est à Chicago, sa ville natale. Et il va passer en fait les premières années là, de son boulot au courrier et puis après comme chauffeur de salle ou je sais plus le titre exact mais régisseur en fait, celui qui dispose un peu, qui aide à disposer à disposer les objets, à disposer les acteurs lors des retransmissions, puisqu'à l'époque toute la télévision se fait en direct. Et puis petit à petit il gravit les échelons, il devient réalisateur. Il fait aussi un documentaire au début des années 60 sur un condamné à mort. Un documentaire qui est tellement saisissant. Alors vous pouvez le trouver sur YouTube, ça s'appelle The People vs Paul Crump, du nom du condamné à mort, Paul Crump, qui avait été condamné pour un braquage de bijouterie qui s'était mal passé. Et les braqueurs avaient balancé un nom, celui de Paul Crump, qui lui a toujours nié avoir été présent. Mais parce qu'il y avait eu un mort durant ce braquage. Un gardien avait été abattu et il fallait donc trouver qui avait fait le coup. Et ce Paul Crump avait signé des aveux, mais des aveux qui avaient été un peu extorqués, quoi, on va dire, par les policiers, qu'il avait un peu, voilà, qu'il avait un peu aidé à avouer. Du coup, Friedkin en a fait un documentaire qui est très intéressant. Je vous conseille, il est sur YouTube. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notamment, il y a une partie d'interview, donc réalisée en, vraiment sur le vif, puisque c'est quelques mois avant l'exécution. En fait, l'exécution est programmée en 62 et Friedkin fait son tournage en 6 mois avant. Et il y a des moments qui sont des moments fictifs qui recréent en fait ce qui s'est passé lors du braquage et lors de son arrestation, donc qui sont interprétés par des acteurs. Et on voit déjà des plans, des cadres qui rappellent son style, en fait. Donc, c'est, je vous conseille, hein, si vous voulez vraiment voir la naissance d'un cinéaste, où il y a déjà en fait toutes ces obsessions et toutes ces formes stylistiques, mais vraiment dans un matériau vraiment brut. Le documentaire, en fait, est commandé par la chaîne de télé dans laquelle bosse Friedkin, sauf qu'il refuse de le passer quand il voit le résultat, parce qu'il se dit que ça va influer sur le gouverneur, ça va avoir le mauvais effet, en fait. C'est-à-dire que le gouverneur va se braquer et va décider d'accélérer l'exécution plutôt que... parce qu'il va se sentir, en fait, obligé, sous la pression populaire, de montrer voilà, qui est le patron. Et au lieu de le diffuser, il l'envoie, en fait, en séance privée. Le gouverneur voit donc le film en séance privée et ça lui fait changer d'avis. Et en fait, il gracie Paul Crump, qui va faire, en fait, qui va rester en prison jusque dans les années, je crois, 90, plutôt que d'être exécuté, ce qui est quand même une première et ce qui est quand même important, je pense, pour Friedkin, c'est-à-dire que son premier film a sauvé la vie d'une personne.
Ouais, non, donc, c'est pas banal. Hein.
Ouais, voilà, ça doit faire beaucoup sur le moral et sur l'ego. Je pense que c'est aussi pour ça que c'était pas le plus modeste des réalisateurs. Mais voilà, et donc il va notamment acquérir une petite célébrité justement dans le monde du documentaire. Il va faire plusieurs documentaires dans les années 60. Et puis après, grâce à John Frankenheimer, il réussit à faire un premier film qui est Good Times avec Sonny et Cher. Et voilà, il fait plusieurs films qui. Une adaptation d'Harold Pinter qui est The Birthday Party, The Night They Raided Minsky, je crois que c'est une comédie musicale. Ouais, et Les Garçons de la Bande. Ouais. Les Garçons de la Bande qui est pas mal. Qui est,
ouais. La nuit où ils ont. The Night They Raided Minsky, c'est aussi intéressant à voir parce qu'il y a. C'est une réalisation assez incroyable hein, quand même.
Ouais.
C'est presque du Baz Luhrmann. Ouais, c'est. Il y a beaucoup d'effets de style, il joue sur le noir et blanc, les couleurs, il y a des reconstructions, la reconstruction du 1920 est assez bluffante parce que ça passe du noir et blanc à la couleur.
Oui, ça se passe pendant la prohibition, non ?
Ouais, c'est l'histoire du premier striptease. Donc c'est un hommage aux comédies aux burlesques, aux musicals. Il y a beaucoup c'est une comédie musicale, hein. Il y a beaucoup de numéros de musicals. C'est assez étonnant comme film et il y a vraiment une maîtrise de la réalisation qui est assez incroyable hein, dedans. Il fait beaucoup d'effets, beaucoup de pour un film de 68, c'est hyper moderne. Hein,
moi j'avais vu The Birthday Party qu'il avait fait avant, qui est l'adaptation de la pièce d'Harold Pinter, mais je l'avais vu vraiment il y a tant d'années que je me souvenais même plus que je l'avais vu. C'est quand donc qu'ils ont annoncé sa mort et que j'ai revu des extraits. Et je me suis dit, purée, je l'ai vu. Et en fait, sur YouTube, il est disponible. Donc, du coup, je me suis refait des passages. Et effectivement, même dans The Birthday Party, tu as déjà sa mise en scène qui est assez imposante. Et en fait, c'est un film très paranoïaque, en fait, sur un mec qui vit dans une petite maison. Et d'un coup, en fait, il y a deux personnes qui viennent pour lui faire faire une fête d'anniversaire. Et, mais qui part en vrille, quoi. Et qui va le rendre fou, en fait. Et c'est très. Je me souviens que je l'avais vu, que j'avais bien aimé en me disant bon, au moins je l'ai vu. c'est fait, je peux le cocher. Mais j'aimerais bien le revoir, du coup. Celui dont j'ai un plus gros souvenir, c'était Les Garçons de la Bande, qui est l'adaptation, en fait, aussi d'une pièce de théâtre, mais sur sur la communauté homosexuelle à New York, en fait, sur des amis qui vont fêter l'anniversaire d'un de leurs amis et qui sont tous homosexuels et qui parlent un peu en fait de la situation des homosexuels à la fin des années 60. Donc il y en a un qui est marié mais qui n'ose pas dire qu'il est gay. Il y en a un autre qui est, je crois, dans une agence de pub. Enfin bref. Et le ce qui est intéressant, c'est par exemple. Donc déjà le début est pas mal parce qu'en fait c'est tourné façon vraiment documentaire. Avant qu'ils arrivent dans l'appartement où va se dérouler l'anniversaire, t'as plusieurs séquences en fait qui les montrent dans leur environnement professionnel. Et donc dans New York de l'époque, donc t'as quelque chose d'assez assez brut et assez direct. Et la personne dont c'est l'anniversaire arrive très tard en fait dans le film. Et quand il arrive, il est vraiment présenté comme une espèce de diable qui entre et en fait il tacle tout le monde. Et tu vois que tout le monde est un peu c'est un peu le chef de meute et tout le monde est un peu sur ses gardes en fait quand il faut lui parler parce qu'ils savent qu'il a du fiel à revendre. Et au final ce mec là en fait tu t'aperçois que c'est un mec en fait qui vit très mal je crois son physique parce qu'il a pas un physique très avenant et du coup voilà il y a quelque chose aussi sur voilà sur le fait de comment dire le mysticisme du mal et la réalité qui te démystifie tout ce mal, ce qu'on va retrouver après. Mais effectivement, une fois qu'il a fait ses premiers films, le gros point d'entrée de sa filmo, c'est French Connection. C'est là où il dit qu'il a décidé en fait d'aller vraiment dans le brut, de faire un carton, avec un film policier qui parle de deux inspecteurs de police à New York qui vont faire tomber des trafiquants de drogue. Et c'est le jeu de chat et la souris entre les flics et les truands. Et on voit que les flics, ils rament comme pas permis. ils sont pas hyper sympathiques. Donc, c'est Gene Hackman et Roy Scheider. Ils sont pas hyper sympathiques. Mais t'as quand même envie qu'ils coincent les trafiquants de drogue qui, eux, mènent grand train, on va dire. Notamment le charrier, c'est ça, le chef des trafiquants. Et voilà, et ça va se finir sur un truc complètement ambigu avec une poursuite
une autre grande poursuite.
Dans un entrepôt.
Chaudement recommandé, c'est un chef-d'œuvre aussi.
Oui, French Connection, French Connection et L'Exorciste, donc qui fait court sur coup, c'est les plus connus qu'il a fait, puisque de toute façon, ce sont eux avec lesquels il va avoir ou des Oscars ou des gros succès critiques et publics. L'Exorciste, c'est quand même un des films qui a rapporté le plus de thunes de.
C'est un des plus gros succès du cinéma. Il faut replacer.
Quand même et à son donc, niveau, fort de ces deux, je pense que l'exorciste, c'est pas la peine qu'on s'apesantisse sur un des films les plus connus.
On peut peut-être juste dire que malheureusement, la version que vous avez trouvée, c'est pas la version de l'époque.
Oui, essayez de trouver.
Malheureusement, elle est pas bonne. Essayez de trouver la vraie version qui est sortie en cinéma dans les années 70. Bon courage à vous. C'est pas facile, vraiment pas facile à trouver.
Bah, il est dispo sur un Blu-ray, sur un coffret Blu-ray qui a été édité au début des années 2010. En fait, le disque bonus, c'est la version de 73.
Parce qu'elle est quand même mieux que la...
Oui.
Que le nouveau montage. Donc voilà.
Si vous voulez vraiment montage a été refait en 2000. Par la suite, donc fort de ces deux succès, il va tout miser sur un projet qui s'appelle Le Convoi de la Peur, qui est le remake du Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouzot, Sorcerer en anglais, où il va se dire je vais faire mon meilleur film, qui est sur quatre malfaiteurs venus des quatre coins du monde qui se retrouvent en République dominicaine pour convoyer, pour pouvoir en fait se payer un ticket retour. Décide en fait de convoyer des camions. Il y a deux camions remplis de nitroglycérine pour éteindre le pire job du monde. Et ça va finir dans les rires et dans les rires et l'émotion. Et c'est un film un autre chef-d'œuvre souvent considéré comme son meilleur. C'est à débattre, mais moi, oui, voilà, oui, c'est un film dont on avait beaucoup entendu parler. Quand j'avais vu la première fois, il y avait déjà une aura en fait sur le film parce qu'il était disponible nulle part pendant longtemps. Et j'avais réussi à voir, un ami m'avait filé son enregistrement de RTL. Donc j'avais réussi à voir le film et je m'étais dit, ouais, ça peut pas être au niveau de ce qu'on nous raconte en fait. Parce que des fois, tu vois justement des films ultra réputés. Sauf que celui-là, si, il tient vraiment la distance. Et il a été restauré, réhabilité il y a quelques années. Donc ce qui est vraiment bien, vous pouvez le trouver vraiment dans de belles copies. Et ça, on vous le conseille parce que vraiment, Sorcerer, c'est extraordinaire. Mais ça a complètement bidé, autant du point de vue critique que public. C'est sorti la même semaine que Star Wars. Ouais. Sorti la même semaine que Star Wars. Ça a complètement disparu des écrans en très peu de temps. Et ça a un peu flingué la carrière de Friedkin, qui ne s'est jamais remis en fait, de ce film. Ouais. Même si après, il a fait encore de très bons films, donc Police Fédérale Los Angeles, ou Cruising, qui fait quelques temps avant, en 1980, qui est la traque d'un tueur en série dans le milieu homosexuel cuir à New York, avec Al Pacino, et qui est vraiment bien aussi. Un petit peu en deçà, mais qui est vraiment aussi une belle petite bombe. Et donc, les années 80, voilà, ça va pas fort en fait au niveau de la carrière de Friedkin, puisque Deal of the Century, ça a bidé. Il fait des projets pour la télé. Donc normalement, il fait un épisode de la quatrième dimension, de la nouvelle quatrième dimension, qui s'appelle Nightcrawlers, qui est sur un vétéran du Vietnam qui a des visions. Et en fait, ces visions apparaissent dans la réalité, qui est pas mal du tout. Pareil sur avec le huis clos, la paranoïa, enfin bref, tous les marqueurs de... Et le fait que les États-Unis font plein de conneries à l'intérieur et en dehors de leur pays, ce qui est un peu aussi, à mon avis, ce qui est plus que ces échecs, à mon avis, ce qui est un peu flingué Friedkin, c'est la façon dont Friedkin parle de son pays. Ouais. Et notamment dans Police Fédérale Los Angeles, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui flingue complètement l'Amérique de Reagan. Puisque les deux agents font partie des services secrets, donc ça veut dire que, en fait, les services secrets, c'est pas des espions dans le sens James Bond. Ça veut dire qu'en fait, ils participent à des opérations à la fois d'infiltration et d'enquête de réseaux, donc notamment le réseau des faux trafiquants, puisqu'ils sont ils bossent avec le Trésor, avec le ministère du Budget aux US. Mais ils sont aussi capables de servir en fait de. C'est eux aussi qui servent de garde du corps. Ils sont multitâches. Ils servent aussi de garde du corps pour le président des États-Unis, comme on le voit dans la première séquence, qui a été réajoutée in extremis par Friedkin, où on le voit empêcher un attentat de
notre héros.
Sur Reagan, et qui est par un terroriste, je crois, palestinien ou iranien.
C'est ça. Ouais. Visiblement, il en veut à Israël.
Ouais.
Il s'est arrêté de manière assez expéditive. Finalement, c'est pas Chance, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle le héros joué par William Petersen. Lui, il se déballonne un peu à la fin, et c'est son coéquipier qui
se débarrasse derrière qui le balance du haut du toit.
C'est une manière
de faire. Et en fait, c'est pas montré de façon héroïque. C'est vraiment
non, du tout. De façon
procédurale, et puis ils sont très, très fatigués. Et tu vois déjà dans la façon dont ils filment et dont ils mènent le montage que Chance, il a une espèce d'attirance en fait, pour le personnage du terroriste, puisque le terroriste en fait, a des. Il a sur lui en fait, des bâtons de dynamite qui comptent faire exploser. Et l'idée du suicide.
Ouais.
Du héros en fait de le comment dire la façon d'être du terroriste, c'est-à-dire l'obsession plus le désir de mort, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez le personnage de Richard Chance durant tout le film.
Ouais, durant tout le film, ouais. C'est un peu à l'instar de Mel Gibson dans L'Arme fatale.
L'Arme fatale qui ressemble vachement à Police Fédérale Los Angeles. Mais la version commerciale, en fait, la version
plus mainstream, comme on dit maintenant, de Police Fédérale Los Angeles. Ouais, on va suivre un personnage suicidaire quoi, tout au long du film, hein, finalement, comme bon, beaucoup de grands films. Et c'est ce qui donne une certaine saveur. Cette première séquence là, elle est super pour rentrer dans le bain et puis poser les personnages. Et après, on a le générique magnifique là avec la musique incroyable. Ouais. Et après, tout de suite, on se retrouve. Je crois qu'ils sont en train de célébrer dans le bar. Peut-être un passage d'abord avec Willem Dafoe, peut-être.
Ouais.
Mais c'est comme ça qu'ils posent des personnages. Hein. On les voit d'abord en action et puis après. Le repos du guerrier, c'est la fête de fin de carrière.
On voit sauter à l'élastique.
Ah
justement,
ouais.
il y a ce passage où en fait on a l'impression
qu'il est sur le pont et qu'on pense qu'il va sauter du pont.
Ouais, il saute d'ailleurs du pont, mais il a
saute du pont. Ouais. Mais il a un élastique à la patte.
Et ça te calme tout de suite le perso, quoi. C'est-à-dire que il aime l'adrénaline.
Il aime l'adrénaline, ouais.
Et les jeans peu... très moulants.
Très moulants. Et prendre des pauses.
Ouais.
Des pauses inutiles quand il rentre dans une pièce ou quand il défonce une porte.
Il se la pète à mort. Ouais. Il a complètement compris le personnage. Ce qui est intéressant, c'est que William Petersen, en fait, il a. Autre point commun avec Yannick, c'est que William Petersen, à la base, c'est un acteur de théâtre. Il l'a vu en fait, c'était une troupe à Chicago, et il l'a vu donc sur scène où il interprétait un tramway nommé Désir. Et en fait, William Friedkin dit qu'il a voulu l'engager parce qu'il n'avait jamais vu autant de public féminin venir voir une pièce de Tennessee Williams. C'est parce qu'en fait, elles venaient tous pour voir William Petersen jouer. Donc il s'est dit, on tient une star.
Ouais.
Et ce qui sera. Qui ne sera pas le cas, ouais, même s'il va faire coup sur coup en fait, deux des plus grands films des années 80, qui sont donc Today, When Thine Lay et Manhunter de Michael Mann. Sachant que Friedkin dit quand même une bêtise en disant qu'il a été le chercher pour son premier film, parce que tu retrouves William Petersen en videur de bar dans Le Solitaire de Michael Mann.
Ah ouais.
Tu le vois dans une séquence...
Ok, ouais, donc Michael Mann avait déjà la patte dessus.
Ouais, bah, si ça se trouve, il est venu en tant que figurant, puisqu'il a habité Chicago, Petersen. Ouais. Et John Panko, qui fait John Bukovic, qui fait son partenaire, c'est un ami de William Petersen, qui était avec lui dans sa troupe de théâtre. Donc en fait, il a fait venir...
Il a fait venir son pote pour jouer.
Distribution, quand même, on peut le dire, à toute épreuve. William Dafoe. Ouais. Mais qui à l'époque, en fait, c'est que des gens pas connus, quoi. Willem Dafoe, John Turturro.
Ah ouais, il est tout jeune. Hein,
ouais.
Il y a Dean Stockwell,
ouais.
Qui joue l'avocat semi-véreux.
Qui est vraiment. Qui est gluant.
Ouais. Dean Stockwell. Ouais. Ah ouais, lui, c'est vraiment.
À la fois
le...
classe et gluant.
Oui, c'est là que tu sens que t'es vraiment dans une sale histoire, en fait, quand son personnage apparaît et que tu vois qu'en fait tout est entremêlé. Ils s'en sortiront jamais, quoi.
Oui, parce qu'en fait, tu t'aperçois petit à petit que voilà, les liens entre les services pour lesquels bossent Chance et Vukovic et la petite organisation de faux monnayeurs de Richard Masters, donc de Willem Dafoe, en fait, sont plutôt en cheville les uns avec les autres, puisque chacun balance... en fait, tout le monde se balance un peu... des informations, font tomber des concurrents, permettent d'avoir des faux témoignages. Tout se négocie en fait de façon politique. Il y en a qu'un qui comprend pas ça, c'est le héros, Richard Chance.
qui veut juste sa vengeance. Hein.
Voilà. Et qui agit de façon. En fait, je me suis dit justement la comparaison avec l'arme fatale, c'est qu'on a l'impression que c'est un. C'est un peu comme Last Action Hero, où en fait, tu as un policier de série B de grand écran qui tombe, mais dans la vie réelle. Et en fait, il fait tout ce que doit faire un policier, un flic de grand écran. C'est-à-dire qu'il poursuit les méchants, il flingue sans avertissement, il fait une poursuite en voiture qui sert à rien, mais juste parce qu'il vient de se merder sur le... En essayant de prendre le butin d'un autre faux monnayeur qui s'avère être en fait un agent de la CIA ou du FBI, je ne sais plus, sous couverture. Donc en fait, il fait que merder. Parce que en fait il est dans le monde réel et en fait parce que le ce qui le rendrait en fait invincible et du côté du bon droit dans un film normal, dans un film de Friedkin, en fait ça tombe complètement complètement à l'eau jusqu'au final dont on parlera après, mais qui oula, c'est complètement
je pense que c'est assez juste hein, parce que même dans la quand il arrive dans la séquence où il, une fois que son coéquipier a été descendu, quand ils font le raid sur l'entrepôt, il arrive et il donne un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, la porte s'ouvre pas, et en fait il faut la tirer dans l'autre sens. Et après il continue, il prend des poses un peu partout comme ça.
Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est le seul qui est habillé avec un blouson en cuir,
des sandales.
Tous les autres sont les autres sont en son costume de ville, quoi. Tous les autres sont habillés en fait pour aller au boulot, et en fait il y a que lui qui joue Starsky Hutch, quoi.
Non, tu sens que c'est l'essence de son personnage, de voilà, c'est le super flic, quoi. Mais comme tu dis, effectivement la réalité est là, la réalité est précieuse.
Il va se prendre au mur de la réalité en pleine fois. Et en face on a Richard Masters, qui est un personnage, alors lui complètement complexe, complètement ambigu, qui est complètement hors norme par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un grand méchant ricanant, et pourtant il est hyper dangereux. C'est-à-dire que Friedkin disait qu'il avait pris Willem Dafoe pour le côté un peu androgyne du personnage. Il joue vachement là-dessus, sur l'ambiguïté sexuelle, notamment avec sa campine qui est danseuse. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que dans un plan, tu sais, la première fois qu'on voit la danseuse, sa copine danseuse qui va dans les loges, j'ai l'impression que quand elle est de dos, j'ai pas l'impression que ce soit l'actrice, j'ai l'impression qu'il a mis un mec de dos.
Ouais.
De façon à ce que quand tu as le contre-champ, tu sois surpris parce qu'il embrasse ce que tu penses être un mec, et en fait, c'est elle. Il y a vraiment quelque chose, en fait, il joue vachement aussi sur l'ambiguïté de son amie, là, je sais plus comment elle s'appelle, dans le film, qui est joué par Debra Feuer. Et il a en plus une espèce d'amour, mais qui est dominateur, mais qui est en même temps manipulateur. Et puis il aime bien se regarder, se filmer en train de faire l'amour. Il y a quelque chose de bizarre en fait avec le seul point commun qu'ils ont avec entre Richard Chance et Masters, c'est que ils ont le couple. Tu vois que en fait ils manipulent la femme avec laquelle ils sont. Parce que Richard Chance, lui, couche avec son indique, qui est une ouvreuse dans une boîte de striptease assez minable.
Il l'a fait chanter, en lui disant.
Il l'a fait chanter,
voilà. Elle retournera en prison si jamais elle suit pas ses ordres, quoi, entre guillemets.
Il lui fait un peu une Darmanin, comme on appelle.
On appelle ça dans le métier.
Dans le jargon.
Dans le jargon. Ce qui rend le personnage peu sympathique, hein, quand même. William Peterson, au bout d'un moment, vraiment. on a du mal à le prendre en affection, quand même. Non. Et surtout qu'en parallèle, il est avec son associé, son copilote, son collègue, qui ne jure que par le règlement. Flic de quatrième génération, mais qui va être, on le verra, rapidement corrompu, quoi, finalement. Même si, pendant la quasi-totalité du film, il essaye de marcher droit alors que l'autre fait n'importe quoi à côté.
Mais il joue quand même un triple jeu parce que il a des rencarts avec l'avocat, tu vois.
Il
connaît un peu, lui, les mécanismes.
C'est pas que l'obsession de vengeance de William Peterson qui va corrompre ce personnage. Il y a aussi tout le truc autour, comme je disais, le personnage de Dean Stockwell qui couvre un sacré pan un peu de la corruption mondiale. D'ailleurs, tout le truc, je veux dire, leur guerre contre les faux-monnayeurs, il y a quand même un truc avec le personnage de Willem Dafoe. Tout le début du film, on le voit en train de faire la fausse monnaie. C'est un truc hyper méticuleux. C'est un vrai job, en fait. C'est pire qu'un job, c'est un truc de il faut vraiment avoir du talent pour faire ça. C'est hyper hyper précis, hyper pointu, ça lui prend du temps. C'est un vrai boulot qu'il fait.
Il montre le côté un peu artistique même du personnage,
même appliqué, même artisan, tu vois. La tête qu'il fait quand il est en train de faire les faux billets, Willem Dafoe, il a une tête de mec d'étudiant qui est en train de travailler sur son projet. Il n'y a vraiment aucune aucune touche de mal, en opposition à la fin du film où il est un peu montré dans les flammes comme le diable. Mais y a, je pense qu'il y a quand même ce truc de montrer qu'il est vraiment pas pire que les flics qu'il a en face, ouais, quelque part, ouais. Dans une certaine mesure, puisqu'il y a quand même visiblement pas mal de corruption, pas mal d'ambiguïté. Le partenaire qui se fait dessouder de William Petersen, quand il va sur la scène où il va chercher, soi-disant faire un repérage pour essayer de débusquer le faux monnayeur, on n'est pas sûr qu'il n'est pas là juste pour récupérer les faux billets en loose day, parce qu'il ne veut pas se faire accompagner par William Petersen, donc ça reste aussi super ambigu là-dessus. Et c'est ce qui fait la force aussi, la richesse du film, quoi.
Ouais. Avec en plus le fait qu'il meurt dans une poubelle.
Ouais.
C'était le début, en fait, t'es vraiment dans le ton. En fait, il met des petits détails comme ça à chaque fois, Friedkin, qui renforce en fait l'idée un peu de corruption.
Ouais. Rien que dans le générique, tout tourne autour de l'argent. C'est
les billets. Qui est dans les années 80 en plus, qui est le billet vert dans les années 80. Mmh. C'est quand même.
C'est la religion. Quoi.
Les années de la culpabilité. Ouais. Et le effectivement, on est à 2 ans du crash de Wall Street. On est dans l'affairisme à tout va. Et c'est ce que montre Friedkin, ouais, voilà, que en gros tout le monde glorifie en fait le billet vert, alors qu'en fait le billet vert tu peux le contrefaire comme tu veux, c'est juste du papier, démystifie ça.
Ouais. Il démystifie. Ouais, ouais. Alors que tout le film, c'est ça tourne autour de ça, il y a des tonnes de morts.
Alors
que c'est pas. Au niveau des crimes, est-ce que c'est vraiment un crime si grave de faire de la fausse monnaie? Est-ce que ça génère qu'il y ait les secrets de service qui soient à bosser là-dessus? C'est quand même. Alors qu'à côté de ça, tu vois la ville, tu as une description de la ville qui est quand même assez glauque. Tu vois quand même qu'il y a
des
misères partout, il y a des trucs.
Tout est tourné en décor réel. Il n'y a pas de scène en studio, même quand ils vont dans la salle de avec le juge qui lui donne la permission en fait, d'aller chercher le complice de Masters en prison, ils ont tourné dans la vraie prison. Je sais plus comment elle s'appelle cette prison à Los Angeles. La salle de tribunal, c'était une vraie salle de, enfin la salle de tribunal où le bureau du juge dans le tribunal, c'est un vrai bureau, quoi. Ils ont pris pendant une journée, ils ont eu l'autorisation de filmer dans ce bureau. Ils ont vraiment D'ailleurs, je crois que je me demande si on n'avait pas vu pour la première fois Police Federal Los Angeles dans une soirée Arte sur Los Angeles.
Ouais,
parce que parce que voilà, on voyait tous les quartiers qu'on voit, on voit pas dans.
Je serais certain que c'était sur Arte parce que c'était les sous-titrages en jaune. Ça reste gravé dans la mémoire. ça devait être une soirée théma là-dessus. Mais c'est ce qui fait aussi la force de Friedkin, c'est effectivement, comme tu dis, d'ancrer le truc dans le réel et d'avoir. Lui, en règle générale, il n'a pas une vision très, sublimée de la ville. Il filme ça vraiment d'une manière assez documentaire. Alors, ça dépend du point de vue où tu es quand tu vas faire ta promenade, mais dans les grandes villes, tu peux vite être déprimé par ce que tu vois, quoi. C'est souvent
surtout Los Angeles, hein, pour y avoir été, je peux te dire que c'est pas
c'est pas le truc de carte postale.
Je trouve pas que ce soit une ville très je trouve que justement en fait c'est assez représentatif là ce qu'il y montre et notamment le côté, moi ce que j'aime bien c'est la façon dont il se sert un peu du ciel et du côté, en fait c'est très lumineux alors qu'on est en décembre, ça se passe aux alentours de Noël et de janvier, c'est décembre et janvier. Y a d'ailleurs des petits indicateurs comme ça qu'ils ont mis avec le monteur qui change en fait de typo suivant les écrans pour montrer la date. Alors il y en a, c'est une typo manuscrite, il y en a, c'est le les chiffres habituels voilà, pour les dates, comme si c'était tapé sur une machine à écrire. Il y en a un autre, c'est un compteur qui avance, en fait, avant le final. Et ouais, ça renvoie à ce que tu vois aussi dans le générique, où tu vois les photos des dossiers sur lesquels ils travaillent, avec des personnages qui sont entourés, des petites notes dans les marges. Le générique est mortel. C'est un peu comme un générique de Mission Impossible. En fait, tu vois des extraits du film, mais mélangés effectivement à la transaction de la, C'est un petit clip en soi. Ouais, il utilise
autre des point commun qui... avec Quentin Dupieux.
Voilà, oui, tout à fait. Qui vient du clip, ouais, avec Monsieur Oiseau, oui. C'était Flat Eric, c'est ça.
Ouais. Son perso. Il avait le mérite de faire de la bonne musique électronique à l'époque, ce qui n'était pas, courant dans ces années-là.
Mais c'est vrai
on n'y connaît rien.
Ouais. On n'y connaît rien, mais moi j'aime bien la zig de Wong Chung.
Ouais.
Je trouve que ça fonctionne à fond, notamment l'espèce de rythmique là, quand ils se poursuivent dans l'aéroport là, et qu'ils avaient repris dans le sketch des nuls justement qui parodie les séries télé américaines policières. Je crois que c'était Dominique Farrugia était fan absolu en fait de Police Fédérale à Los Angeles. Et en gros, dès qu'il pouvait, il mettait la musique de. Puisqu'à l'époque, on s'en foutait des droits. Dans les sketchs, dès qu'ils pouvaient, ils mettaient la zik de Police Fédérale Los Angeles.
Ouais, alors c'est une zik très typée années 80, mais bon, maintenant, c'est aussi des choses qui sont revenues à la mode.
Ouais.
Qui ont des échos qui ont été réhabilités, donc ça
choque. Type drive ou.
Ouais.
Mais là, dans le film, je trouve que c'est. C'est intéressant parce que même les paroles font écho à ce que vivent les personnages. Et je trouve jamais, en fait, je trouve que c'est vraiment le point d'équilibre entre. Ça fait vraiment partie de l'esthétique du film, sans être envahissante, en fait. Sans trop dire quoi penser. J'adore la façon dont la photo. Là, par contre, toujours sur Los Angeles, gère les couchers de soleil. Les ciels bleus, enfin la photo, c'est Robbie Muller qui avait travaillé avec Wenders sur Paris-Texas, et en fait c'est pour ça qu'il avait pris quand il a vu Paris-Texas, il l'a pris sur le film, mais Muller était plus axé en fait sur des plans très longs, notamment des plans séquences très longs ou des choses comme ça. Il aimait pas en fait changer les axes de caméra. Donc, ils se sont un peu pris le nez là-dessus. Et Muller a refusé de faire la poursuite en voiture. Donc, on va peut-être pouvoir parler. C'est la plus grande poursuite en voiture au cinéma de tous les temps. Je mets la sur le tapis. C'est Robert Yeoman qui travaille aussi avec Friedkin, je crois, sur la suite, sur Rampage, sur le sang du châtiment. Et sur le téléfilm qui fait à la même époque, Cat Squad, qui est aussi écrit par Gérald Petkovitch, qui est sur une équipe façon un mélange entre Mission Impossible et Agence Tourisme, qui remplit des missions pour le gouvernement américain. Et c'est une traque d'un tueur à gages en fait, qui tue des scientifiques un peu partout dans le monde. Et il le
poursuit jusqu'au Mexique. Série télé ou
ouais, qui s'est pas fait. Il a fait deux téléfilms du coup.
Ouais, et que je me chope, ça a l'air...
Ouais, tu l'as sur YouTube. Alors, c'est pas génial, mais t'as quand même des super passages, notamment tous les passages. C'est très fauché. Moi, ça m'a choqué.
Pas de sous.
Mais par contre, je crois qu'il l'a fait dans la roue de Tully Vendainele. Je pense qu'il pensait que ça allait cartonner et qu'il aurait plus d'argent pour faire le projet.
L'Eldorado de la télé.
Ouais, bah t'as des séquences où tu vois qu'on a mis des affiches au mur pour cacher que t'étais dans une chambre d'hôtel, enfin des trucs un peu comme ça. Mais par contre, quand il tourne en décor réel, t'as notamment une poursuite au Mexique qui est vachement bien. C'est tu verras, il y a un moment qui m'a tué de rire. Donc tu vois que c'est tourné au Québec, que c'est pas tourné à Paris, mais ils mettent Paris. Donc jamais il y a autant de neige à Paris, hein, et à un moment donné ils sont rue de la Chine, ça m'a tué. Voilà. Ouais, ouais. Rue de la Chine. Okay. Et du coup, voilà, ce téléfilm qui est fait au même moment. Et pourquoi je parlais de ça, c'est que Yeoman donc est son chef-op sur ses projets, et le chef-op en fait qui va accepter de faire la poursuite en voiture de donc qui va être le point d'orgue de
du film. Ouais, c'est le grand moment action, hein. C'est ouais, effectivement comme tu dis,
qui n'était pas prévu mais
qui a été rajouté.
Bah en fait il avait pas envie en fait d'essayer de se concurrencer avec French Connection.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la meilleure poursuite en voiture. Alors voilà, le seul concurrent, ça va être French Connection, pour moi. Hein.
Ouais.
Mais ça se bat l'un contre l'autre, quoi, effectivement. Donc, ouais.
Il s'est fait son propre duel.
Challenge.
Mmh. Ouais. Donc c'est une poursuite, on peut rappeler que c'est dans les réservoirs de Los Angeles.
Ouais, avant un peu comme dans Terminator 2.
Ouais. Ouais. Mmh. Où les donc après avoir complètement merdé et avoir fait assassiner un contact du FBI qui était en couverture, il se barre avec une valise de fausse monnaie.
Ils
ne savent pas que le mec qui a été abattu est un agent du FBI, mais il se retrouve aux trousses avec plein de mecs surarmés dans des voitures
qui sortent de nulle part. Alors grande surprise, hein, parce qu'ils pensent quand même que bon, même si le mec est mort, ils savent pas encore que c'est un mec infiltré, ouais. Mais bon, ils sont quand même partis avec la valise de pognon, donc ils sont contents, et puis d'un seul coup, tout dégénère, parce qu'ils se font tirer dessus par des mecs avec des armes de guerre.
Et ils finissent par prendre... Donc, il est poursuivi dans les faubourgs de Los Angeles. Mmh. Donc déjà, ça, c'est pas mal dans les zones industrielles, là où ils passent dans des ils manquent de se faire emboutir par des camions, ils passent dans des petites ruelles bien étroites, entre deux entrepôts. Et ils finissent par aller sur l'autoroute, mais ils décident de prendre l'autoroute à contresens.
Oui.
Ouais. Et on voit à la fin des mecs qui sautent vraiment sur les toits des voitures avec des armes de guerre pour leur tirer dessus alors qu'ils s'enfuient. Il y a ce plan, moi, que j'adore, qui est quand ils pensent s'en être sortis. Ils sont dans le réservoir et en fait ils passent sur une grosse flaque d'eau, et la flaque d'eau vraiment s'ouvre en deux sur le passage de la voiture, et ils sont tellement contents que l'eau retombe donc sur le pare-brise, et ça fait comme s'ils avaient juté en fait. Ils étaient tellement contents de s'en être sortis, sauf qu'ils se prennent une balle juste après, et il y a Vukovic qui passe en fait son œil sur l'impact de balle, et en fait le cadre est super en fait, parce que tu n'as que la vitre, en fait tout le cadre de l'image est rempli par la vitre pétée, avec juste ce point d'impact et l'œil par dessus qui entre. Voilà, c'est alors il faut savoir qu'ils ont mis une caméra sur le toit.
C'est avant les CGI, hein, tout ça, hein, c'est réalisé
une caméra sur le capot pour pouvoir capter William Petersen qui conduit, parce que William Petersen en fait conduit quand c'est de face, quand on peut voir en fait que c'est lui qui conduit, et sinon c'est un cascadeur, mais quand c'est de loin, mais il y a quand même une bonne partie où c'est Petersen qui conduit, de façon à ce qu'on voit aussi les assaillants les poursuivre et voir la tête apeurée de ou déterminée de Petersen, quoi. Donc
il y a que French Connection qui peut réaliser avec cette scène là j'aime cette séquence là évidemment, mais la poursuite dans l'aéroport aussi à pied est super cool.
Où il y a un long travelling où on le voit sauter sur les
sur les sièges. Alors effectivement là il fait le super flic.
Et sur les escalators. Oui, il court sur les escalators. Qui avait été interdit, en fait. Les mecs de l'aéroport leur avaient demandé de ne pas faire ça.
Ouais, on l'a fait.
Vous pouvez utiliser l'aéroport, mais surtout vous courez pas sur les rampes d'escalier. D'escalator, et effectivement c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien à foutre. Et il y a le gag que j'aime bien en fait, c'est quand ils sont dans les toilettes et que Richard Chance pousse à coups de pied à peu près toutes les portes pour essayer de trouver Turturro qui se planque. Et ils finissent par le choper. Et quand ils se retournent, il y a un mec qui entre dans les toilettes. Et en fait tout le monde se tient en joue.
Oui, parce qu'il y a la sécurité de l'aéroport qui arrive en même temps.
La sécurité arrive, ouais, tout le monde se tient en joue. Et en fait, il y a un mec qui arrive et fait « Mais moi, je suis juste là pour pisser, en fait.
» Ouais, ça dédramatise un peu le truc. Juste la petite touche qu'il faut. Mais c'est une sacrée séquence, ça aussi. D'ailleurs, les scènes de baston sont, sont aussi percutantes parce qu'il n'y a pas de... j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de montage. Les mecs sont filmés en plan... Enfin, pas un plan séquence, mais c'est pas coupé en tout cas. Quand ils se mettent des.
Et ils utilisent ce que disait Friedkin, ils utilisent à peu près tout ce qu'il y a dans le décor.
Ouais.
C'était chorégraphié par un chorégraphe qui avait fait les combats sur Opération Dragon, qui avait travaillé avec Bruce Lee en fait.
Et, donc ça se sent parce que c'est des.
Ouais. Et du coup, t'as Steve James aussi qui bosse avec qui lui a fait les films American Ninja avec Michael Dudikoff.
Ouais.
Qui se retrouve aussi dans Cat Squad, donc dans le téléfilm dont je parlais. Et qui est excellent, moi je trouve Steve James dedans, là en concurrent de Masters, qui demande en fait à être payé en monnaie, en fausse monnaie.
Non, ça donne un aspect aux scènes de combat qui sont, enfin, les scènes de combat entre guillemets, hein, c'est deux trois passages à tabac.
Mais c'est
un peu crasseux efficace. Comme ça, mais du coup, voilà, ça donne un aspect, ça fait ressortir la violence du truc. Et c'est, on a pas vu ça souvent, je trouve, dans des films de ce calibre. Généralement, c'est beaucoup plus surdécoupé les scènes de bagarre comme ça, passage à tabac, on va dire.
Ouais. Et puis que dire d'autre qu'on n'a pas dit? C'est un film Starfix. Faut le dire aussi, ça a été âprement défendu par. Je crois que c'était Nicolas Boukrieff qui avait fait la critique, qui est vraiment très bien dans Starfix. Ils avaient fait un découpage de la poursuite, justement, la poursuite en voiture, une analyse de la poursuite en voiture. Je pense que c'était peut-être les seuls à l'époque journalistes à défendre le film quand il est sorti. En France et devenu un des films symboles de ce magazine dans les années 80.
Ouais, un film dont on entendait parler, qu'on conseillait.
Oui, il y avait beaucoup de il y avait un peu une mystique autour de ce film du fait.
Ouais, parce qu'il y a deux. Est-ce qu'on va spoiler quand même. Voilà, il y a vraiment un moment choc. On va dire qui est la mort de William Petersen, qui se fait flinguer très soudainement alors qu'ils sont en train d'arrêter.
On pense que c'est William la fin, Dafoe. On pense qu'ils vont arrêter William Dafoe.
Voilà,
même si on se dit qu'il va y avoir une poursuite, quelque chose comme ça.
Il n'y a pas de poursuite, il y a une balle dans la face.
Ouais.
Voilà, William Dafoe, un homme de main.
Joué par un ancien flic.
Ouais, qui est vraiment une grosse brute. C'est lui qui a dessoudé d'ailleurs le collègue de William Petersen.
Ouais.
Et
qui a une espèce de long fusil là, qui a l'air vraiment de
qui a
faire très mal. Et il se prend une bastos en pleine tête.
En pleine face. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Et après c'est.
Et c'est à Vukovic qui va devoir maintenant venger Chance, qui fait beaucoup plus rapide que Chance par rapport à.
Oui. Il va régler le truc plus rapidement.
Ouais. Parce qu'il sait où il se trouve, en fait. Il connaît l'adresse de l'entrepôt qu'il n'a pas donnée à Chance.
Ouais.
Il connaît l'adresse de l'entrepôt via une enquête parallèle.
Il va passer à deux doigts de se faire dessouder.
Ouais.
Parce qu'il hésite.
Oui.
Mais finalement...
Ils se battent au milieu des flammes et tout.
Ouais, ça fait très après, Hong à la Kong. Fin, ça... Ouais, ça fait très Hong Kong. Ça fait très dantesque. Ouais. Et Masters part dans les flammes.
Ouais.
Tel le diable, aspirer un ange de la mort. Et après, on a cette fameuse séquence où comment il s'appelle l'agent Vukovic ?
Vukovic, ouais.
Ouais, qui débarque déguisé en Petersen, il a les lunettes de soleil, les perfecto.
Oui.
Et il va rendre visite à l'indique.
À l'indique qui pensait pouvoir s'en sortir parce que c'est l'indique qui a trahi.
Qui est en train de faire sa valise, ouais.
L'indique a trahi Richard Chance. qui a conduit à sa mort. Et Vukovic vient la voir et lui dit que maintenant, elle bosse pour lui.
Voilà.
Voilà.
Et c'est là-dessus que se termine le film. Voilà, on est loin de...
On aura aussi vu la on aura aussi vu la maîtresse de Master se barrer avec sa copine, puisqu'elle a la propre maîtresse de Master a aussi une maîtresse et se barre avec l'argent de Master et la bagnole de Master.
Et la bagnole,
Le film n'a pas un grain d'espoir, en fait.
C'est ça. La morale est très, très subtile. Hein. C'est... Ouais. Sur le fil du rasoir, il y a des baiseurs et des baisers, entre guillemets. Ouais. Vous pouvez toujours sortir votre épingle du jeu d'une mauvaise situation, mais éviter de rester obsédé par...
Il ne faut pas avoir trop de conscience.
Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à marcher sur la gueule de des gens qui vous entourent pour obtenir un petit peu de confort.
Ouais, de toute façon, c'est les années 80, tout le monde fait ça. Voilà.
C'est ça, en plus, de toute façon, c'est comme ça tout autour de vous. Jouez le jeu.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc, Vukovic, lui, il a fait complètement un transfert de personnalité. Parce qu'il est déguisé effectivement comme Richard Chance, il a le même perfecto, le même...
Alors qu'il n'est pas du tout le même gabarit, hein. Lui, c'est un petit gars qui perd ses cheveux et qui a un peu une grosse tête. Et puis... Mais ça le fait quand même quand il débarque en perfecto.
Tout est dans l'attitude. Ça va être un bon connard comme l'autre.
Ouais. C'est bien parti.
Ouais. Une bonne relation qui commence. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit, je crois. On va pas quand même partir du mauvais pied.
Ouais.
L'autre, il comprend pas en fait. Elle pense qu'elle va encore pouvoir partir. Mais c'est foutu.
C'est foutu.
Voilà.
Est-ce que tu as lu le livre?
Non, j'ai pas lu le livre. Par contre, il paraît que dans le livre, Chance ne meurt pas. Et normalement, au départ, c'était dans le scénario original, c'était Vukovic qui devait mourir. Donc quelque chose de beaucoup plus classique, quoi. Le partenaire, le deuxième partenaire qui est un peu naze, qui se fait abattre, quoi.
Ok. D'accord.
Et c'est pendant le tournage que je crois Friedkin a pris à part son monteur et lui a dit, il faut qu'on on le tue. On le tue, c'est la seule.
C'est quand même couillu, hein. C'est quand même.
Ouais. Bah d'ailleurs, il y a une autre scène sur le DVD. Ouais. Tu as une scène alternative. Tu peux voir la scène alternative commentée d'ailleurs par Friedkin et par Petersen qui disent que c'est une fin alternative de merde et que c'est le studio qui leur a qui a failli leur imposer cette fin-là où tu vois Richard Chance et Vukovic qui sont en Alaska avec Chance qui a juste un petit pansement sur la joue. Et Petersen raconte, il dit ça a aucun sens et tout. Je viens de me faire tirer dessus à bout portant avec une chevrotine. Et comment voulez-vous que j'ai juste une égratignure à la joue, quoi. Et il dit c'est la fin. Alors je sais plus si c'est lui ou c'est Friedkin qui dit que c'est la fin. Eddie Murphy de Police Los Angeles. Et ils disent quand même tous les deux, ils disent peut-être qu'on aurait eu plus de succès avec une fin comme ça. Mais ils seraient complètement les seuls qui sont pas corrompus dans l'histoire. Dans cette histoire, dans ce film, les seuls qui ne sont pas corrompus, c'est ceux qui le font, en fait.
Non, je ne pense pas que ça aurait marché du tout, même avec une fin à un happy end comme ça. Je pense que c'est...
Je sais que le film n'aurait pas fonctionné pour nous. Enfin, aurait...
Du coup, ça aurait fait bizarre. On aurait dit c'est pas mal, mais la fin est nulle. Tu vois.
Un peu comme L'Arme Fatale 2, tu sais, où à la fin, t'as le... ils ont bricolé la fin pour que Rick soit pas mort, mais en fait, donc ils ont rajouté toute une discussion entre. Après, dans L'Arme Fatale 2, ça fonctionne mieux puisque de toute façon, le ton est assez.
Oui, dans L'Arme Fatale 2, t'as pas envie de les voir mourir, quoi. La formule, elle est déjà là et puis il est quand même.
Mais ce que je veux dire, c'est que la séquence fait bizarre.
Oui, puisque à la fin, il s'est pris 14 balles. Puis ça fait mal quand je rigole.
Ça fume.
Ça fume. Ah, mais t'as pas mal de polars comme ça qui sont souvent assez dans cette période-là, qui sont un peu sombres mais qui ont des fins un petit peu
Mais c'est ce
qui
que
jouent
Shane
le jeu
Black,
du truc mainstream.
ouais, c'est ce que Shane Black disait par rapport à ses scénarios, donc le scénariste de L'Arme Fatale, qui disait que on avait modifié toutes les fins de ces scénarios parce que à chaque fois, en fait, ça finissait. Lui, il voulait faire des finales qui ressemblent à l'inspecteur Harry, où tu finis simplement avec un duel et quelque chose de très sombre à la fin. On lui demandait à chaque fois de finir dans une explosion, voilà, avec ce qui se passe avec, par exemple,
une explosion,
le dernier
Samaritain. Ouais.
T'as carrément un hélico, t'as voilà, c'est le contrepoint de cette période-là qui le film est génial pendant 1h40, mais à la fin il faut quand même une petite morale pour que les sous rentrent, pour que le budget rentre. Ouais.
J'essaye de me souvenir d'un film avec Willem Dafoe où ils sont flics à Saigon là. Aussi un espèce de buddy movie, mais je me souviens plus. Où c'est vraiment très cool pendant tout le film, mais t'as la finale avec règlement de compte et mec qui passe à travers une vitre. Très très convenu quoi.
Ça me dit quelque chose aussi. Ouais, on mettra le
Moins que j'arrive. Non, c'est voilà, Saigon l'enfer pour deux flics, ça s'appelle le titre Off Limits, le titre anglais.
C'est de quel réalisateur?
Christopher Crowe. Alors, il n'a pas dû faire grand-chose après. Mais alors le film se tient super bien. C'est sur la police à Saigon quand ils sont les États-Unis sont un peu en train d'occuper le territoire. Et voilà, c'est super glauque, c'est une enquête au milieu des gouvernements corrompus, etc. Avec les militaires tout autour. Mais ça se termine sur un simple règlement de compte avec un mec qui traverse une vitre, quoi, à la fin. C'est ce qui fait que le film, est pas un classique.
Il est pas passé dans les... Ouais, voilà.
Voilà. Pas passé à la postérité, comme on dit, ouais.
Et Willem Dafoe, donc... un des premiers rôles après Les Rues de Feu de Walter Hill. Moi, je le trouve excellent. Mais aussi, premier petit rôle pour John Turturro.
Ouais.
Il vole la vedette hein, dans les... Dans
ouais, il est assez excellent. Hein.
Même face à Willem Dafoe, quand il est en prison et que tu vois un bon petit duel d'acteurs...
Ouais. Non, c'est il est très très convaincant. Turturro dans son rôle de petite frappe.
Petite frappe. Et j'aime bien aussi comment est-ce qu'il ramasse Richard Chance là quand il arrive à s'évader. Ce qui joue sur le fait que Turturro est vachement grand.
Ouais. Donc, il paye pas de mine comme ça. Il l'emmène à l'hosto avec son histoire bidon de petite fille. L'autre, il vérifie rien du tout.
Et puis, il est vachement grand et maigre. Donc, du coup, Et puis, en fait, il joue vraiment là-dessus. En fait, il lui fout deux claques sur les oreilles. Il lui détruit les couilles. Faut bien dire. Ça aussi, le fait que les jeans de Peterson soient très serrés.
Ouais. Il y a aussi un mec qui se prend une balle dans les roustons aussi. Hein.
Ouais. Et tu vois d'ailleurs on voit le service trois pièces de William Petersen.
C'est vrai.
Quand on regarde en Blu-ray, parce que la séquence où il est au pieu avec son indique, il se dessape et il se dessape pour de bon. Il hein. Il n'y a pas de prothèse.
Il n'y a pas de prothèse, il n'y a pas de doublure.
Ouais. Et on voit que ça lui déplaisait pas d'ailleurs.
Il était en grande forme le jour-là.
Il était en grande forme. En fait, Friedkin raconte que pour la séquence-là, en fait, il a juste dit aux acteurs « Étonnez-moi ». Okay. Qui veut dire « Je ne sais pas quoi faire, alors allez-y ». Mais tu vois, même dans le commentaire audio, il explique aussi que rien que cette... comment dire, l'espèce de petite cahute, la petite maison dans laquelle elle est, l'indique, qui ne paye pas de mine. Là. Même là, en fait, il a demandé à l'actrice de choisir des bibelots et un peu de décorer l'environnement dans lequel elle est, alors que tu ne passes pas beaucoup de temps, mais t'y passes suffisamment en fait pour caractériser.
Ouais, ouais. Puis pour comprendre que c'est le petit Ouara où elle vit.
Ouais. Voilà, voilà.
Je pense qu'on a fait le tour, oui.
Est-ce que Tulivenda Inele peut sauver notre soirée ciné? Je pense que.
Je pense que la réponse est oui. Je peux me tromper. Hein, vous pourrez nous dire dans les commentaires si ça vous a pas plu et que vous avez passé une soirée de merde. Mais
dans ces cas-là, on peut vous dire qu'il y a l'arme fatale. Si voilà. Vous voulez voir le même film, mais en plus sympathique et sans avoir le seum à la fin.
Il existe l'arme fatale, effectivement. Ouais. Et des tonnes de buddy movies après. Mais...
Qui est bien aussi, hein, je critique pas l'arme
fatale. Ouais, l'arme fatale, moi, ça reste un très bon film que je peux recommander aussi, sans problème, surtout avec le temps. Ça prend une certaine saveur. Mais on n'est pas dans le même registre, effectivement.
Ouais. Oui, c'est deux salles, deux ambiances.
Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'on finit sur un petit point commun entre les... Est-ce qu'on a eu, donc on a vu pas mal de petits points communs sur, entre les deux films. Je dirais que on arrive plus loin avec un mot gentil et un flingue qu'avec le mot gentil tout seul.
Ouais, c'est à peu près ça.
C'est un peu
Et attention, voilà, aux réactions. Voilà. Et attention aux réactions démesurées quand on vous critique.
Ouais.
Vous êtes fait s'énerver pour rien. Ça mène pas forcément à un bon résultat.
Ouais. Ok. Eh ben, on va vous remercier. Merci Ringside.
Mais je t'en prie. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Ouais, on espère que ça vous a plu autant que nous à l'enregistrer. On vous dit que on est. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller voir.
Oui, vous savez quoi faire maintenant.
Ouais, vous êtes grand. On vous laisse le choix, comme les réalisateurs dont on a parlé. Donc, Quentin Dupieux et William Petersen, c'est assez grand pour eux. Pour prendre vos décisions. Ouais. Et puis, on vous dit à la prochaine avec deux autres films dans Il faut sauver la soirée ciné. Bye bye.
Ciao, bye bye.